Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce Mola Polar 20e édition déjà, en présence donc d'une auteure que nous recevons pour la première fois, Sophie Loubière, qui vient de faire paraître aux éditions Fleuve Noir son dernier roman Black Coffee. Qui est donc White Coffee, pardon, excusez-moi. Black Coffee vient de sortir en poche. Il était sorti en 2013. Il vient de sortir chez Pocket. Et donc, on imagine une suite logique, vu la ressemblance des titres, mais titres étrangers aussi, familiers mais étrangers, puisqu'il s'agit d'un titre en anglais. Alors, pourquoi ce choix, ce parti pris, et quel a été votre parcours qui vous a amené justement à l'écriture de roman policier, puisque vous ne venez pas à la base du roman policier, vous venez du roman et de la radio. Vous avez été journaliste, donc vous avez l'habitude de parler au micro. Et quel a été votre parcours qui vous a mené vers cette écriture et ensuite vers le côté anglo-saxon ?
Alors, je vais déjà répondre sur le parcours. L'écriture a toujours été pour moi quelque chose qui ne pouvait être de l'ordre d'un objectif concevable, puisque étant enfant, je souffrais d'une forte dyslexie qui n'a été décelée qu'au CM2. Donc tout mon premier parcours scolaire a été assez difficile et j'étais quand même assez en froid avec les mots et surtout l'orthographe, puisque mes dictées étaient des zéros pointés permanents. Donc dans ces conditions difficiles d'imaginer un jour qu'on écrira, qu'on sera romancière. En revanche, l'imaginaire était déjà là. Donc il se traduisait par d'autres moyens que le stylo. Et c'est au travers de jeux de rôle, je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup de danse classique, beaucoup de poterie, de peinture, de dessin. J'étais dans tous les arts possibles, dans la musique, le piano notamment. J'exprimais cet imaginaire, ces émotions, ce que j'avais en moi, que je ne pouvais traduire en mots, en tout cas que je ne m'autorisais pas à faire. Grâce à un orthophoniste qui a, en un an, de façon tout à fait miraculeuse, trouvé la bonne méthode, j'ai réussi à remonter une moyenne tout à fait acceptable qui m'a permis de continuer une scolarité sans faille et même de me retrouver en lettres modernes. J'ai aussi été beaucoup aidée par les profs de français, mes profs de français auxquels je dois énormément, pour m'avoir passé des livres, m'avoir ouvert l'esprit, comme mes parents le faisaient déjà d'ailleurs, vers de grandes et de belles lectures. Et sous leur encouragement, puisque apparemment mes rédactions étaient de véritables chantiers de réflexion et d'imaginaire, j'ai commencé à écrire des petites choses dans un coin, déjà sur un petit carnet à spirale que je cachais en haut de mon armoire, et ensuite à rédiger une première nouvelle en anglais, puisque je me sentais beaucoup plus à l'aise avec l'anglais. Ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, pourquoi ? Parce qu'apparemment, j'ai des origines anglaises, mais je l'ai appris donc hier soir au cours d'un dîner de famille à Bordeaux, puisque ma famille, du côté de mon père, est de Bordeaux. Et puis, il y a eu la rencontre avec le Macintosh. À l'époque, on l'appelait encore comme ça. Ce petit ordinateur qui était très compact et qui intégrait un logiciel qui corrigeait, qui proposait, qui soulignait les fautes, qui proposait des corrections. Et ça a été mon tuteur. Quand j'avais 20 ans, pour écrire mon premier manuscrit. Les deux premiers manuscrits n'ont pas été publiés. Je les ai envoyés aux maisons d'édition. Le premier n'a pas eu de retour favorable. Le second a été repéré par Grasset, Martine Boutan en l'occurrence, qui avait repéré quelque chose chez moi, sans doute à juste titre. Le livre, malheureusement, n'a pas été au-delà du fameux, comment dit-on, une espèce de comité de lecture, voilà, qui s'est réuni. Mais elle m'encourageait à le retravailler et me proposait de venir la voir à Paris. Mais à l'époque, j'habitais encore en Lorraine, à Nancy, où je suis née. Et pour moi, ça me paraissait un parcours du combattant impossible à mener toute seule. Et je n'étais pas du tout en position financière de pouvoir prendre le train comme ça et d'aller travailler avec Martine Boutan. Mais ça aurait changé ma vie, c'est certain. Le chemin a été autre, il a été par le biais de la radio, à finalement commencer à écrire des textes pour la radio que je mettais en scène, des fictions pour lesquelles j'ai commencé à recevoir des prix. Et puis la rencontre avec Jean-Bernard Pouy à la fin des années 90, auquel je demande comme une petite fille en levant le doigt, Jean-Bernard Pouy, Monsieur Pouy, est-ce que je peux écrire un poulpe moi aussi? Cette fameuse collection dans laquelle n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde, pouvait décider d'écrire un roman en utilisant le personnage de Gabriel Le Couvreur, dit Le Poulpe, et de partir sur une enquête un peu sociétale, ce qui me plaisait beaucoup. C'est mon premier roman, en 99, grâce à Jean-Bernard, donc c'est mon papa de littérature, qui me permet de, voilà, d'arriver dans ce monde littéraire. Suivront deux romans de littérature générale, grâce à un amour de jeunesse, là je vous dis des choses très intimes quand même, Philippe Claudel, qui a été un amoureux lorsque j'avais 16 ans, lui est un petit peu plus âgé que moi, c'était mon pion en fait. Et c'est aussi quelqu'un que j'ai connu dans le milieu des radios locales privées de Nancy, puisque Philippe Claudel était directeur des programmes d'une radio qui s'appelle Galipette. Voilà, c'est assez rigolo. Et c'est en le retrouvant, en le voyant dans une émission de Philippe Lefay le soir, donc c'est les mots de minuit, que je me dis, mais tiens, mais c'est Philippe, je reconnais. Et j'ai pris contact avec lui par le biais de son éditeur et je lui ai fait passer un manuscrit que j'avais écrit entre-temps. Et ce manuscrit, qui s'était ramassé partout, a été pris dans les 3 semaines chez Ballant et publié. Comme quoi, ça aide quand même les amoureux. Et grâce à lui, donc, j'ai eu 2 romans de littérature générale qui ont été publiés chez Ballant, qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, puisque la maison a fait faillite. Et pas grâce à moi, hein, enfin, quand même, je n'y suis pour rien. Et c'est comme ça que les choses ont démarré. Mais comme Le Poulpe avait bien pris dans le milieu du polar, j'ai très vite eu des demandes, des propositions d'écriture de romans noirs. Et c'est comme ça que c'est le chemin noir qui s'est dessiné par rapport au chemin blanc. Et c'est pour ça que mon écriture n'est ni noire ni blanche, en fait.
Jean-Bernard Pouy, qui justement signe une jolie préface à L'Enfant en caillou, un de vos romans que vous avez fait paraître en 2011, je crois, qui est paru chez Pocket depuis, et qui dit de vous, et c'est, vous le soulignez dans un de vos textes, qu'il dit de vous que vous êtes un peu un côté Agatha Christie qui pète les plombs, mais que vous aimez bien ce côté vieille dame indigne, qui boit du thé, mais que vous préférez vous le café, justement. Est-ce un pied de nez à ce clin d'œil à Jean-Bernard Pouy d'avoir intitulé vos romans Black Coffee ou White Coffee, ou pas du tout?
Black Coffee, c'est le titre d'une pièce de théâtre d'Agatha Christie. Et je l'ai découvert après avoir donné ce titre à mon roman. C'est un titre qui a été aussi décidé en accord avec Céline Toulouse, ma première éditrice au Fleuve. C'est une très belle rencontre que Céline, que j'avais déjà croisée quelque temps auparavant chez Biblio. Non. J'ai écrit un recueil de nouvelles en 2000.
Et vous avez écrit beaucoup de nouvelles, oui.
Ouais, et c'est Sabine Fespizer qui avait repéré ce recueil de nouvelles et qui l'avait publié. À l'époque, Céline travaillait avec elle. Et c'est comme ça que Céline avait déjà entendu parler de mon travail d'écrivain. Et c'est elle qui trouvait que Black Coffee était un très bon titre. Au départ, moi, j'étais partie sur La route assassinée, qui me semblait plus proche de ce que je souhaitais raconter dans l'ouvrage, mais Céline a eu raison, je pense. Bien que le titre anglais m'ait desservi pour, notamment, je le sais, pour certains prix, notamment des prix littéraires, qu'on a du mal à donner à des prix, des romans français dont le titre soit anglais. Et oui, c'est comme ça, c'est la France. Mais je n'ai pas de regret par rapport à ce choix, puisque quelque part, ça a dicté aussi l'idée d'un White Coffee et d'une trilogie, puisque le 3e volet, qui est en cours de préparation, lui, va s'intituler Bloody Coffee. Bloody en référence, évidemment, au sang, mais le sang, en l'occurrence, dans Bloody Coffee, c'est la filiation. Et non pas, chez moi, le sang, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. On en reparlera sans doute tout à l'heure, mais voilà, c'était plus l'idée d'une filiation. Enfin, pourquoi Black Coffee? Tout simplement parce que c'est en allant chercher mon fils à la crèche, en voiture, que j'ai entendu la somptueuse chanson Black Coffee, chantée par Peggy Lee, la version par Peggy Lee, qui est très très belle. Et je me suis dit, ça m'a amené toutes les scènes, les premières scènes du livre, et notamment le personnage de Nora Blair, qui est la maman de Desmond, cette femme qui attend un homme, et qui, cet homme qui ne rentre pas, qui ne vient pas, et elle l'attend en fumant des cigarettes et en buvant du café. C'est vraiment une très belle chanson, et pour moi, c'était tout le climat du livre. C'est un livre sur les femmes, la solitude des femmes qui attendent un homme qui ne rentre pas. Et cette femme, c'est aussi Lola, évidemment, dans Black Coffee.
Et justement, cette scène inaugurale qui ouvre Black Coffee, donc le premier tome, donc pas un diptyque, donc, mais ce serait donc une trilogie, vous nous l'apprenez. Cette première scène qui est très choc, en effet, qui est très poignante, bouleversante, mais vous la racontez pas, en effet, à la mode d'un thriller américain, même si votre roman se passe entièrement aux États-Unis, même si vous emparez d'un mythe là-bas du serial killer qui est Légion, vous le faites avec une plume extrêmement à la fois réaliste, mais extrêmement sensible aussi. Vous avez un parti pris, ou du moins une façon de voir les femmes comme des victimes, mais pas que, et pas comme des objets non plus sexuels, pas comme des objets de perversité de la perversité masculine.
Le personnage de Nora Blair est en fait un personnage qui se trouve là par hasard. Dans la scène qui ouvre le roman, des personnages sont mis en situation par le hasard, par le destin, en fait. Donc il n'y a pas de dessein de cruauté, il n'y a pas de dessein, la violence arrive parce qu'elle est générée par la mise en contact, la surprise de découvrir que dans cette maison il y a des gens. Et le personnage qui rentre dans cette maison est un personnage qui a tout un parcours qu'on va découvrir après dans le roman. Et c'est ce parcours-là, c'est comme une chape de plomb sur lui qui l'amène à agir d'une façon très, très particulière. Pourquoi cette scène très violente pour ouvrir Black Coffee ? En réponse aux remarques des lecteurs sur l'enfant au caillou. Il m'avait été reproché d'avoir... reproché est un grand mot, mais certains lecteurs avaient été déçus par rapport à leur lecture habituelle de thriller qui commence toujours par des scènes très fortes, voilà, où on est tout de suite pris par une enquête, des indices, etc. Et dans l'enfant caillou, pas du tout. C'est-à-dire qu'on suit tout doucettement l'histoire d'une institutrice à la retraite, de l'enfance quasiment jusqu'à nos jours. Et c'est petit à petit que s'immisce le doute, qu'on commence à se poser des questions sur elle, que ça commence à déraper petit à petit. Chez moi, les choses arrivent à maturation, comme le vin, quoi. Enfin, ça prend son temps. On déguste, mais au sens littéral et propre du terme.
Oui, quand on lit dans l'ordinaire du robot, on comprend pourquoi la métaphore culinaire est très importante aussi.
Je pense que c'est un de mes romans qui prend le plus son temps dans l'ordinaire du corbeau, effectivement. Puisqu'il faut plus de 100 pages pour que les deux personnages principaux se rencontrent. Et dans Black Coffee, on retrouve aussi ça. Mais parce que dans la vie, l'homme ou la femme de votre vie, vous ne l'avez pas rencontré en 5 minutes. Hein, ça, y a eu tout un cheminement. Et Black Coffee, donc, c'est la réponse à ses lecteurs en leur disant, bon, vous voulez quelque chose de puissant, du sanglant, on va démarrer avec quelque chose de fort. Et j'avais en tête un article, une coupure de presse que j'avais lue dans une revue qui m'avait été amenée par le truchement de son rédacteur en chef, qui est la revue Détective, qui est une revue que je ne lis jamais. Donc, comme vous, parfois, je vois les publicités très racoleuses devant les bureaux de presse. Et c'est un article de presse qui m'avait littéralement bouleversée, dans lequel il était question d'un homme qui était un jour passé devant une maison. Le portail n'était pas fermé, il est rentré. La maison, il n'y avait apparemment personne dans la maison. Dans le jardin, il y avait des enfants qui jouaient. Et il a pris des pierres, je crois que c'est avec des pierres, et il a fracassé le crâne des enfants. Il est ensuite allé dans la maison, il a tué tout le monde. Et ce type-là est resté sur place et a regardé agoniser les enfants dans le jardin. Il n'est pas parti tout de suite, il les a laissés mourir parce qu'il était curieux de savoir combien de temps les enfants mettraient à mourir. quand vous lisez quelque chose comme ça, vous dites, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui sur Terre, qui puissent commettre des actes aussi odieux. Je me souviens plus très bien des détails sur ce qui s'est passé dans la maison, parce qu'il y a des choses que j'ai dû occulter. Mais ça m'avait frappée, parce que la question que je me posais, c'est d'où vient cet homme ? Alors qu'apparemment, c'était un gars qui avait fait le Vietnam, donc était un peu perturbé. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi est-il rentré dans cette maison ? Apparemment, ce qui était important, c'est le fait que le portail était ouvert. Et je me suis dit, et le chien était attaché. Et dit, moi, je ne serais pas rentrée dans cette maison. D'habitude, je passais devant sans m'arrêter parce qu'il y a un chien qui aboyait. J'ai peur des chiens. Ce jour-là, le chien était attaché. À quoi ça tient ? Le destin de ces familles, à quoi ça tient ? Donc, je suis partie de ce fait divers que j'ai édulcoré. Voilà, puisque pour moi, les enfants, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal à aller au-delà d'une certaine violence. Par le fait que ma mère était éducatrice spécialisée en milieu ouvert et qu'elle m'a beaucoup déjà raconté de choses de ce que peuvent vivre les enfants aujourd'hui dans notre société et dans leur famille, au sein de leur famille. Donc c'est ça qui a ouvert Black Coffee et qui fait que le livre est très fort hein, par cette ouverture. Après, on va partir sur des choses qui sont amenées de façon beaucoup moins frontale.
Alors justement, vous intéressez plutôt au pourquoi, au comment, plutôt que... Qu'elle a juste le côté thriller, mais vous situez aussi vos deux romans dans un cadre dans lequel vous avez déjà situé justement dans l'Oignon de Corbeau, c'est-à-dire les États-Unis. Alors pourquoi cette fascination pour ce continent extraordinaire, mais en même temps si peu connu d'une certaine façon, à part à travers des clichés. Et justement, vous emparez de ces clichés, vous emparez du serial killer, vous emparer de la Motherhood. Donc c'est aussi un fait divers, mais aussi c'est une histoire personnelle aussi, votre lien avec les États-Unis.
Le concept même de Black Coffee, c'est mon mari qui me l'a apporté sur un plateau sous la forme d'une boutade. Un jour il me dit, pourquoi tu n'écrirais pas un livre qui se passe sur la route 66 ? Je me dis, mais pourquoi j'écrirais un livre sur la route 66 ? C'est pas du tout quelque chose qui me parle, c'est pas ma culture. Je suis pas particulièrement fascinée par les États-Unis, ni la culture de son histoire. Et il me dit, parce que comme tu fais toujours des repérages in vivo, comme ça on pourrait aller faire la route ensemble. Donc en fait, l'idée c'était, allons faire un voyage aux États-Unis sur la route 66 au prétexte que tu vas écrire un livre. Et je lui réponds en souriant, mais quel genre d'histoire je pourrais bien écrire qui se passerait sur la route 66 ? Et il me dit, je ne suis pas une histoire de serial killer. Alors là, je pense qu'en deux secondes, il a sorti les deux gros clichés sur lesquels jamais je n'aurais pensé aller me risquer. Et la petite voix cheminant, quelques jours après, je lui dis, écoute, je crois que c'est une très bonne idée. C'est un défi. On va aller faire la route. Et c'est ce qui s'est passé. On est parti avec les enfants. Pendant 6 semaines aux États-Unis, 4 semaines sur la route, de repérage, de plonger vraiment dans les entrailles de cette Mother Road qui, à certains endroits, est complètement défoncée, abandonnée, ou parfois, au contraire, magnifiée, fêtée, presque identique à ce qu'elle était il y a 90 ans. Et c'est aussi un grand risque que j'ai pris parce que ce n'est pas ma culture et qu'il fallait trouver le bon angle. Et l'angle, ça a été justement de me glisser dans la peau de Lola Lombard, qui est cette mère de famille française qui a beaucoup emprunté à mon expérience de la route avec mes enfants et mon mari, qui est née en moi pendant ce voyage et qui a trouvé sa place dans cette trilogie très naturellement. C'est donc elle est Lorraine, comme moi. Ses enfants ont l'âge de mes enfants. Et la seule différence entre elle et moi, c'est qu'elle, son mari, disparaît dans une laverie à Williams. Et moi, le mien, il a fait jusque disparaître pendant 1h30. Mais ça a été assez long pour que je panique totalement et que je m'imagine un instant perdu toute seule avec mes enfants en plein milieu de la route 66. Donc ça a été le départ de Black Coffee et de ce fait, le départ d'une trilogie. Parce que le personnage de Desmond est arrivé très vite. Et ça s'est imposé dès l'écriture comme étant la catharsis de tous les personnages que j'avais écrits et aussi de tout ce que je suis et de ce que je souhaiterais incarner dans l'idéal. Et dans l'idéal, je pense que j'aimerais m'incarner dans ce personnage-là. déjà parce que ma fonction de femme n'est pas quelque chose qui, avec quoi je suis à l'aise depuis l'enfance. On m'a toujours bien fait comprendre que les filles étaient toujours mieux à la cuisine ou toujours mieux avec des jeux de filles et pas à jouer au foot avec les garçons. Et moi, j'aimais les jeux de garçons et j'aimais aussi les jeux de filles. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Donc, et puis, j'ai compris que les fils avaient toujours un regard de la part de la mère, notamment, beaucoup plus appuyé, plus attendri. Et que les filles, voilà, quelque part, on les faisait pour qu'elles suivent le chemin des mamans, des grands-mères, etc. Avec une espèce de forme de sacrificielle qui m'interroge beaucoup. Aldo Nauri a été une grande rencontre dans ma vie, hein, je précise. Et c'est effectivement au travers des personnages masculins que je me retrouve le plus dans mes romans. Et Desmond, c'est ça. Il a une grande partie de mon itinéraire. Il s'est construit comme moi en résilience. Il a eu des drames, des pertes importantes de proches dans sa famille. Il a vécu une relation difficile avec son père. Il est en interrogation sur beaucoup de choses. Il a eu un gros changement professionnel, comme ça a été pour moi le cas en 2010, avec un abandon de toute une carrière médiatique. Et je pense que c'est vraiment voilà, un personnage qui devait aller au-delà d'un premier tome. Mais quand j'ai écrit Black Coffee, je n'envisageais pas de faire une suite. C'est arrivé à la fin du livre, je me suis aperçue que voilà, il fallait continuer cette histoire. Et White Coffee, il y avait l'idée peut-être que j'arriverais pas à tout dire dans ce livre et que des choses étaient encore à raconter dans un troisième volet. Mais il n'y a pas de fascination pour les États-Unis. En revanche, il y a une connaissance de l'américain de par des fréquentations que j'ai pu avoir, des voyages fréquents que j'ai fait là-bas. Et une grande connaissance cinématographique et littéraire de la culture américaine.
Oui, on le voit justement avec, pour ceux qui n'ont pas encore lu justement White Coffee, sur un blog que vous tenez, vous avez comme Lola et Annette, sa fille, tiennent un blog sur la route 66. Vous avez tenu votre propre blog avec des photos de famille, avec des repérages sur les lieux. Vous vous montrez vraiment l'immersion dans cette culture, les voyages que vous avez faits. Et justement, pour revenir à cette route 66, qui est vraiment, je voudrais citer un petit passage de White Coffee. Alors, je l'ai lu sur épreuve, donc je n'ai pas la version dédicacée, mais je trouve que la route 66, vraiment, elle incarne avant tout le personnage central de ce diptyque qui sera une trilogie. Bien sûr, Lola et Desmond sont centraux aussi, mais j'aimerais lire juste deux petits passages qui résument et puis votre écriture aussi, cette incarnation, cette route qui se fait chère. Quoi, qui est un personnage. Donc c'est au début donc, de White Coffee. Starlette du bitume, fière de ses vestiges clinquants et branlants, la 66 se montait ou se descendait sans aller ni retour, sauf pour quelques oiseaux migrateurs. Et un peu plus loin, Lola et les enfants avaient parcouru les 4000 km de la 66, oui, parce qu'il faut dire donc, ça, que la Mother Road ou la route 66 relie donc Chicago à Los Angeles, voilà. Les 4000 km de la 66, la Mother Road lui manquait. Cette route, sa peau d'asphalte craquelée, tiède, exhalant un parfum de seigle et de goudron, son amicale tendresse, ses paysages en technicolore, dociles mais lourds de leur passé, égrenant forêts et déserts, capables de modifier les battements du cœur et ses gens au vieux sourire, habillés d'hier et de maintenant, disant les mots choisis pour recevoir la visiteuse et chérir ses enfants, offrir de son temps, car là-bas, il semblait infini. Justement, je trouve que c'est assez... on perçoit là, justement la sensibilité, l'émotion de votre écriture, qui est plus versée, on pourrait penser, dans un roman noir plutôt psychologique, puisque justement, vous vous intéressez justement au parcours de vie, au destin, et cette route qui va croiser, après de façon métaphorique, la route de Lola qui va croiser celle de Desmond, qui lui... est un survivant, lui aussi. C'est ça qui vous intéresse plus que l'intrigue policière en elle-même.
Oui, elle m'a percé un jour. En fait, chez moi, les intrigues sont... c'est le canevas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fil. C'est un vrai prétexte, en fait. Et en même temps, c'est une contrainte. Parce qu'il faut que ce soit bien ficelé pour que je parvienne à accrocher le lecteur avec... c'est de l'illusion, en fait. Je pense que je fais des tours de magie à chaque fois. Ça, je vous fais croire que je vais faire léviter une table. Et en fait, je vous montre juste une table au bout d'un fil, quoi, qui est accroché au plafond. Et vous le voyez qu'à la fin, le fil. Donc ça, c'est
la magie du romancier. Hein.
C'est ce que j'essaye de faire au travers de mes livres. Et dans les nouvelles, c'est différent. L'idée, c'est de vous surprendre dans les trois dernières lignes par une petite chute. D'ailleurs, sur l'édition Pocket de Black Coffee, il y a en cadeau, j'ai tenu à ajouter une nouvelle qui est inspirée par des personnages tout à fait annexes de Black Coffee, qui est une mère de famille et son fils. Elle s'appelle Dirty George Clooney et enfin, pour moi, elle me fait beaucoup rire parce que je me suis imaginée en écrivant cette scène, George Clooney dans le lit d'une dame qui habite une espèce de mobilhome complètement abandonné au bord de la route et qui se réveille après une nuit de beuverie et dans son lit, il y a George Clooney. Donc ça m'amusait beaucoup d'écrire cette nouvelle et de la partager avec les lecteurs dans la version pocket.
Et donc, Black Coffee, alors pour reprendre une question rituelle de tous les lecteurs et donc les libraires des rayons polars de toute la France et de Navarre ont souvent, il faut lire obligatoirement Black Coffee avant de lire White Coffee pour apprécier, parce que justement au début de White Coffee, vous faites un avertissement au lecteur, attention.
De mon point de vue, c'est préférable, c'est comme si vous commenciez Harry Potter par le deuxième tome. Vous pouvez le lire, évidemment, mais vous allez perdre toute la genèse et comment, et notamment toute l'empathie envers Harry Potter. Parce que c'est dans Black Coffee qu'on découvre l'enfant qui est Desmond. C'est dans Black Coffee qu'on découvre la souffrance de Lola, sa détresse et sa rage. Pourquoi elle revient sur la route avec ses enfants pour retrouver son mari? C'est aussi parce qu'elle a des papiers du divorce à faire signer depuis 4 ans, parce qu'elle ne s'en sort pas. Et si votre mari ou votre épouse disparaît et que vous êtes marié sous le régime de la communauté, il n'y a plus qu'un seul revenu à la maison. Et comment on fait pour payer les traites de la maison? Comment on fait pour payer les crédits? Tout ça continue et ça peut vraiment devenir l'enfer pour la personne qui reste seule. Et c'est ce qui est arrivé à Lola. Donc, au-delà de l'abandon, de la souffrance d'avoir été abandonnée et de ne pas savoir pourquoi son mari soudain a fait ce choix de l'abandonner, elle et son fils et sa fille. Enfin, c'est pas la fille de Pierre, mais sa belle-fille. C'est aussi le combat, tout simplement, au jour le jour, de comment je vais faire les courses, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, non pas par un abandon, mais suite au risque que j'ai pris quand je suis arrivée à Paris pour y faire tenter ma carrière. Il y a des jours où je ne mangeais pas grand-chose, quoi. J'étais très contente d'arriver avec 100 francs, encore, c'était 100 francs, à faire mes courses pour la semaine. Donc je mangeais du foie de veau, je mangeais des rems que j'achetais dans les produits qui sont en bas, là, dans les rayons des supermarchés. Et oui, ma hantise, c'était qu'on refuse ma carte bleue en caisse. Donc je ne faisais que des chèques parce que j'avais peur qu'elle ne passe pas. Mais quand on vit des périodes comme ça, forcément, c'est des choses intéressantes pour un romancier. Le jour où on doit traiter ce type de situation, ça s'écrit, mais en une demi-heure, j'écris 3 pages, quoi. Parce que Lola, c'est moi, c'est ce passage de sa vie, je l'ai connu. Et je suis heureuse de pouvoir le partager avec des femmes qui le connaissent ou qui l'ont connu. Parce que c'est des moments d'épreuve, hein. C'est pas... Et on est très fiers de réussir à s'en sortir, voilà, à construire sur ces périodes qui ne sont pas toujours faciles.
Et la rencontre avec Desmond, elle s'est imposée d'elle-même ou est-ce que c'est Lola qui vous a guidé vers lui ou lui qui vous a guidé vers elle?
Il y a quelques années, j'avais une émission de cinéma sur Radio France Nancy-Lorraine. Je devais avoir 19 ans. Et j'ai reçu Bertrand Blier, qui venait de réaliser Les Valseuses. Pas Les Valseuses, pardon, Tenue de soirée.
C'est un peu avant.
Ouais, je ne suis pas si vieille que ça. Ouf. Tenue de soirée. Et j'avais beaucoup aimé ce film. Et j'ai une grande admiration pour l'écriture de Bertrand Blier, notamment ses scénarios. Et je lui dis, puisque j'avais étudié vraiment le film plan par plan, et je lui dis, le dernier plan de votre film, Ettore Scola aurait pu le filmer. Et puis il me regarde avec les yeux qui pétillent et me dit, mais c'est beau compliment que vous me faites, Ettore Scola, c'est mon réalisateur préféré. Donc là, j'étais tombée pile poil. Et il me dit, vous savez, les personnages, c'est comme des dés. On les lance comme ça sur la table, on les jette sur la table et on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec eux. Au début, on a une vague idée. Mais s'ils ont décidé de retourner un 6, vous ne pourrez pas retourner un 5. Et ça, c'est une grande leçon d'écriture que j'ai retenue très tôt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider que son personnage, il fera ça, ça et ça. À un moment, il fait ça, il rencontre Lola et après, il se passe ce qui doit se passer. Dans Dernier parking avant la plage, il y a aussi une histoire d'amour entre François et Catherine. Et j'avais commencé mon livre en me disant, oui, il ne se passera strictement rien entre François et Catherine. Le livre sera tendu érotiquement par ce désir qu'ils ont l'un pour l'autre, mais il ne se passera rien entre eux. Mais ils n'ont pas été d'accord. Voilà, tout simplement, à un moment, ce n'est plus possible. La volonté de l'écrivain ne peut pas aller au-delà de ce qui a été écrit et installé par les personnages. Et Desmond, il existait avant Lola, puisque j'ai déjà commencé à écrire le roman. Desmond apparaît au début du livre, il est petit, c'est un enfant, donc il existe avant elle, et c'est Lola qui arrive dans sa vie. Donc c'est plutôt Lola qui est allée vers Desmond et non l'inverse. Ce qui est assez fascinant pour l'anecdote, c'est que je suis toujours partie de l'acteur Viggo Mortensen, parce que je pars toujours d'acteur ou d'actrice pour des personnages que j'ai besoin de décrire physiquement. Ça m'évite de me tromper et de commencer avec des yeux bleus, de finir avec des yeux marrons. Voilà. Et puis, en partant d'un acteur, on le regarde, parce que chaque acteur a une façon de parler, de se poser, de bouger. Ça permet de nourrir l'écriture de détails précis. Et Viggo Mortensen a un jeu très particulier. Il est beaucoup dans la douceur, beaucoup dans la retenue. Il a aujourd'hui pas loin de 60 ans et c'est quelqu'un qui a toujours le regard d'un adolescent. Donc c'est très intéressant puisque ça correspond tout à fait au personnage de Desmond. Pourquoi le choix de Viggo Mortensen, je ne sais pas. Oui, c'est à cause du Seigneur des Anneaux, puisque ma fille adorait ce film, cette trilogie. Et en regardant avec elle, je vois ce type avec ses cheveux longs, sa barbe, tout ça. Et je me dis, mais tiens, ça, c'est tout à fait le genre d'homme que Lola que Desmond pourrait devenir en vivant dans cette forêt, dans sa maison sous les arbres. Et c'est ça qui a amené ce rapprochement, qui a amené finalement le fait que j'ai travaillé sur l'acteur. Aujourd'hui, il est question de faire une adaptation de Black Coffee en livre audio. Et tout de suite, en parlant avec Audible, qui donc fait des adaptations sonores, il y a un acteur dont j'aime beaucoup la voix, c'est Bernard Gallet, qui est la voix de Gary Sinise et puis de Robert Downey Jr. Ça serait formidable si je pouvais lire le livre avec lui. Donc ça, c'est le projet. Et en tapant sur Internet le nom de Bernard Gallet, je m'aperçois qu'en fait, c'est lui qui double Viggo Mortensen. C'est quand même incroyable que je suis allée chercher la voix, j'ai proposé tout de suite la voix de l'acteur, de l'acteur qui double Viggo Mortensen dans le Seigneur des Anneaux. Bon, voilà. Il y a tout le temps, dans tout ce que je fais, c'est toujours lié. Et ça, je ne sais pas comment, d'où ça vient, quoi.
C'est les hasards ou le destin, enfin ou quelquefois ce qui affleure avec l'inconscient, c'est aussi par rapport à la, je pense dans votre blog, vous dites justement que y a un fait divers qui a rejoint aussi l'histoire de votre livre étrangement, et vous en parlez à la fin de Black Coffee, alors que c'était pas forcément de White Coffee,
White,
à la fin, alors que ce n'était pas forcément du tout certain, ou du tout, enfin voilà, ou est-ce que c'était un fantasme d'écrivain, ce tueur sur la route pendant 50 ans qui sème des morts, une quarantaine de morts sur la route 66. En effet, est-ce que c'est une fantasmagorie d'écrivain, on se pose la question, est-ce que c'est vrai, et justement il y a un fait divers qui a rejoint la fiction. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui.
Cet April, justement.
Alors, j'avais presque fini Black Coffee et réuni énormément de documents, fait beaucoup de recherches sur Google. Et en tapant « disparition mystérieuse, désert Amboy, désert Moyave », je tombe sur un site de recherche de disparition et je vois le visage d'une femme absolument sublime, Enfin, moi, je la trouve énigmatique. Et son regard, on dirait une actrice, en fait, sur cette photo. C'est incroyable. C'est une femme qui pose, elle a les bras comme ça sur ses genoux, sur une couverture. Elle s'appelle April et elle a disparu exactement là où je situe les scènes finales de Black Coffee, où je situe donc une scène des disparitions de jeunes femmes, quoi. Et c'est quand même incroyable que là où j'ai imaginé que quelque chose aurait pu se passer, ça s'est vraiment passé. Et cette femme n'a jamais été retrouvée. C'est-à-dire qu'on est toujours dans 30 ans après, 20-30 ans après, dans 20 ans après, dans l'inconnu. Qu'est-elle devenue? Comment a-t-elle disparu? Donc, je me sentais, avec White Coffee, le besoin et la nécessité à la fois de lui rendre hommage au travers de ce livre, parce que j'avais imaginé un personnage qui aurait pu croiser son chemin et qui est peut-être proche de celui qui a dû croiser son chemin. Et donc, j'ai fait un travail de recherche, comme souvent les auteurs sont amenés à le faire parfois, sur des histoires, des faits réels. Donc, en travaillant sur les éléments qui se trouvaient sur ce site, j'ai bâti ma propre théorie sur ce qui est arrivé à April. Et c'est assez simple, parce qu'avec le recul, on voit à côté de quoi la police est passée. C'est que quand la police appréhende une affaire, elle va l'appréhender dans l'immédiat, l'immédiateté. Et donc on va très vite interroger les proches, etc. On garde les procès-verbaux et puis on met tout ça dans des beaux dossiers qu'on va oublier. Et puis le temps va se passer, on va avoir d'autres indices, on va faire d'autres interrogatoires et on va mettre dans un autre dossier qu'on va fermer. Mais à aucun moment, on va croiser toutes ces informations. On va trop vite, on n'a pas le temps de revenir sur des affaires. Et c'est ce qu'il fallait faire dans le dossier d'April, c'est-à-dire vraiment repartir sur les premiers témoignages. Et par recoupement, il était clair que la police était partie d'emblée sur la mauvaise piste du vagabond, de la personne qu'on croise au mauvais moment, etc. Et April, c'était évident que c'était une femme, c'était évident que c'est une femme qui avait la tête sur les épaules et que jamais elle serait montée dans n'importe quelle voiture. Elle a deux enfants, elle a deux filles, donc voilà. Et c'était une fille qui venait de se reconstruire, qui venait de retrouver un travail. Elle était vraiment dans une phase où on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'était évident que c'était une mauvaise piste et qu'elle c'était plutôt un proche vers lequel elle s'était tournée et qui, lui, l'avait trahie. Et un proche qui, sans doute, l'aimait beaucoup, mais sous l'influence d'une autre personne, avait peut-être, du coup, changé d'attitude. Souvent, dans le cas des affaires qui ne sont pas résolues, c'est parce qu'on cherche un tueur alors qu'ils sont deux. Et c'est le cas dans l'affaire du Dahlia Noir, notamment. Ça, c'est ma théorie sur la disparition d'April. Mais je souhaitais en tout cas l'exprimer et lui rendre hommage dans White Coffee.
Et justement, vous rendez aussi hommage à un autre homme qui a aussi été pour beaucoup, enfin qui est pour beaucoup dans votre vie d'écrivain et de femme et qui d'une certaine façon quand on le connaît, parce que nous on l'aime beaucoup aussi au rayon polar, c'est de Thomas H. Cook qui fait Fleuve Noir a repris un joli bandeau qui parle de vous et de votre univers où vous amenez les lecteurs des ténèbres vers la lumière comme on connaît un autre écrivain. Et justement quand on voit Desmond, quand on voit cet univers là que vous avez créé, on pense à un hommage forcément à cet immense écrivain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un conseiller? Est-ce qu'il lit vos livres?
Thomas H. Cook, c'est une des plus belles rencontres de ma vie et je pense qu'il a beaucoup influencé le personnage de Desmond alors que je ne le connaissais pas, de par sa personnalité, son écriture et sa sensibilité. Je l'ai rencontré au festival Toulouse Polar du Sud il y a 3 ans. Il était invité et je suis allée lui acheter un livre. Donc j'ai pris un petit bouquin et c'était Into the Web, Les ombres du passé. Et je l'ai lu en 2 nuits, pendant le festival en fait. Et je suis allée le voir le deuxième jour et je lui ai dit, écoutez, extraordinaire ce que vous écrivez. J'avoue que c'est ce que je cherche depuis des années. Quelqu'un qui réunit à la fois la qualité, grande qualité littéraire, et puis le roman psychologique, de nous tenir en haleine comme ça, sans effusion de sang. Sans renfort de crochet de boucher ou de FBI ou que sais-je. Et Les ombres du passé, c'est ça, c'est tout ce que je rêve d'écrire, tout ce que j'aime écrire, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un homme qui revient dans son pays d'origine, enfin dans sa région d'origine, dans sa maison de famille où son père est en train de mourir. Il l'accompagne sur les dernières semaines de vie parce qu'il a un cancer. Il ne se passe rien. Il est juste question d'une affaire, d'une bagarre qui avait eu lieu bien des années auparavant, et une bagarre qui avait fait croire à ce fils que son père avait agi de façon lâche. Et c'est sur la lâcheté du père qu'on interroge les non-dits, les secrets, etc. C'est juste un livre sur la lâcheté. C'est magnifique, mais c'est une splendeur, ce livre. Et j'avais mis en exergue de Black Coffee justement un extrait sur... Je peux le lire ?
Oui, bien sûr, tout à fait.
Ça vous... Là, je vais citer Thomas.
Comment commence Black Coffee avant même donc la fameuse scène traumatisante.
Voilà, donc ce que j'ai mis en exergue. Donc il parle du père. Il ne prononça pas un seul mot de tout le reste du trajet sous le soleil brûlant. Si bien que même avec les vitres grandes ouvertes, j'avais l'impression d'être enfermée dans une cage. Car la véritable chaleur provenait de mon père, de ce jeu lent et destructeur qui n'avait jamais cessé de briller en lui. Quand nous atteignîmes la maison, mon père n'était plus qu'un tas de cendres. Je trouve ça absolument admirable. Déjà parce que l'image d'un père en tas de cendres, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Black Coffee. Et les non-dits, cette voiture qui ressemble à une cage dans laquelle on est enfermé à côté d'un père qui est taiseux, c'est quelque chose que j'ai connu. Donc en quelques lignes, il raconte ma vie, il raconte ma relation à mon père. C'est une grande force. Et c'est un petit bonhomme, il est d'une gentillesse inouïe. On se soutient mutuellement, en ce moment il est en grande souffrance à cause des élections américaines. Donc il ose à peine m'écrire, il a honte. C'est pour vous dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce pays où on hésite entre Hillary Clinton et Trump. Voilà, c'est pas le bon choix, quoi. Mais bon, il faudra faire quand même le meilleur, si possible. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup, avec lequel j'échange. Nous nous soutenons mutuellement dans des moments de doute et difficiles d'écrivain ou de nos vies. Et il était peut-être écrit qu'un jour j'allais rencontrer ce monsieur et qu'on allait comme ça nouer une relation d'amitié entre écrivains unique en son genre. Il ne ressemble pas du tout à une bonne fée, j'avoue. Peut-être à Merlin, l'enchanteur, oui. C'est peut-être plutôt ça.
Il a ce côté un peu en effet physiquement.
Oui, ouais, c'est quelqu'un de chaleureux et d'un soutien permanent, parce que j'ai effectivement beaucoup de fragilité, beaucoup de doutes. Quand on se construit en résilience, on est peut-être plus fort, parce qu'on a décidé d'être plus fort que le drame, que les malheurs de la vie. Mais on prend des coups quand même, donc à certains moments, on s'effondre. Il faut quelqu'un pour nous dire « Allez, vas-y, non, c'est ton chemin ».
Dans White Coffee, vous faites encore référence à Thomas H. Cook à travers un roman que nous, on aime particulièrement au rayon polar. Alors, peut-être que vous l'avez pas lu encore, mais c'est Au lieu du noir et temps de Chatham School Affair. Enfin, vous le citez en anglais. Et c'est vrai que c'est un de nos chouchous, quoi. C'est vraiment un sublime roman noir, enfin roman tout court, on s'en fiche de la couleur, mais c'est vrai que c'est un coup de cœur permanent qui a été écrit il y a 20 ans vraiment c'est et vous le citez à un moment, et c'est vrai que c'est drôle justement ce hasard là puisque c'est justement le livre de chevet d'un des personnages secondaires de White Coffee, son livre de chevet. Donc vous le citez même en anglais, je n'oserais pas le citer, mais c'est vrai que c'est un des romans, un des auteurs qui malheureusement est peut-être pas assez connu, j'oserais dire, mais qui est vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez dans l'assistance, mais c'est vrai que c'est un très très bel auteur. Et quand on vous lit, quand on lit White Coffee ou Black Coffee, ou même dans L'œil noir du corbeau, ou d'autres de vos romans, on sent cette même sensibilité, cette même émotion, et ce n'est pas étonnant que vos chemins se soient croisés, quoi.
C'est aussi fort que Les Hauts durent le vent, oui. Aussi fort que Les Sœurs Bonté, c'est une claque littéraire. Mmh. Et c'est étonnant parce qu'en fait, quand on connaît l'histoire de Thomas H. Cook, on est persuadé que son père était universitaire. Mmh. En fait, non, c'est lui l'universitaire. Mmh. Ce n'est pas son père. Son père, c'était un monsieur qui ne pouvait pas lire les livres, tout simplement parce qu'il avait trop mal aux yeux. Et ça aussi, c'est encore un des points communs que nous avons. Visiblement, son père souffrait d'un problème d'orthopsie, c'est-à-dire qu'un problème d'alignement qui fait que quand on lit, au bout de 5 minutes, on ne peut plus lire. Ça fait tellement mal aux yeux et à la tête que c'est insoutenable. La lecture est insoutenable. Et il se trouve que mon fils souffrait de ça il y a quelques années. On s'en est aperçu il y a 2 ans. Et suite à une rééducation d'orthoptique, il a pu enfin apprendre à lire. Mais il a pris un an de retard à l'école. En plus d'une dyslexie que je lui ai gentiment transmise, ainsi que mon mari. Donc voilà, il est gâté, Gabriel. Mais il a plein d'autres... tout va très bien pour lui.
Une résilience aussi pour lui.
Mais en fait, c'est incroyable que le père de Thomas H. Cook souffrait du même problème que mon fils. On a beaucoup de points communs comme ça dans nos parcours. Sa femme, Suzanne, qui a presque la même date de naissance que moi. Enfin, on est... voilà, il y avait une connexion qui s'est faite. Et c'est étonnant que je rencontre quelqu'un dans la vie qui réponde à ces connexions du hasard, à la Lelouch, on va dire. Hein, c'est presque un peu ça. Tel que je les prône dans mes romans. Parce que dans mes romans, souvent, les objets ne sont pas là par hasard. On les retrouve des mois, des années plus tard. Il est question d'un écrou dans Black Coffee.
D'un collier aussi dans White Coffee.
Plein de choses qu'on... Pour moi, les objets et les gens ne sont pas là par hasard. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à... Si des choses ne se font pas à l'instant T, c'est parce qu'elles doivent se faire plus tard.
C'est vrai que on le voit aussi dans vos autres coups de cœur que vous nous aviez confiés pour cette matinale polar. Alors des choses très différentes, des romans cultes. Alors Dorothy Parker, Mauvaise journée demain.
Ah oui, génial.
Ça c'est un petit bijou aussi.
Ouais.
C'est un de vos livres de chevet incontournable. Vous nous avez dit.
Ouais, je l'ai découvert à l'époque où je faisais mon émission sur France Inter, Dernier parking avant la plage. C'est ma réalisatrice, Fleur de Mallet, qui est venue un jour avec un panier rempli de littérature américaine. Et elle m'a apporté Raymond Carver, William Boyle. Et puis, il y avait Dorothy qui était là. J'ai pris tous les bouquins de Dorothy Parker. Je les ai lus d'affilée. C'était formidable. Je me suis vraiment retrouvée dans ce personnage. Et elle a une écriture d'une grande fluidité. Je pense que c'est la grande prêtresse, bien avant Bridget Jones, de l'image de la femme désespérée, mais qui s'assume. C'est une grande modernité. Et donc, je crois que Lola a comme marraine Dorothy Parker, c'est certain.
Avec un côté quand même un petit peu, avec une écriture aussi très, très, très moderne, très, très cinglante aussi. Hein,
oui, il y a, oui, oui.
Un
regard sur les hommes, très aiguisé aussi, à la fois sans concession et d'une grande générosité.
Autre auteur américain, auteur notamment de La fenêtre panoramique, mais vous avez choisi un autre roman avec un titre aussi en anglais, Easter Parade.
Ouais.
Pourquoi ?
Richard Yates, je viens de découvrir ce roman qui était sur mon étagère depuis des années. À l'époque, j'avais l'émission Dernier parking et parking de nuit à France Inter. Je recevais énormément de livres et il y en a beaucoup que j'avais mis de côté en me disant cela, ce sera pour moi. C'est mes chocolats. Donc, il était dans sa boîte de chocolat. Et je l'ai lu en 2 jours. C'est absolument l'écriture. C'est une force. C'est, on est emmené par l'histoire de ces deux petites filles.
Deux
sœurs qui, dans le parcours d'une Amérique totalement désabusée, où le couple, c'est l'époque où les parents divorcent. Hein, c'est les années 50, 60. Donc évidemment, des choses que je retrouve dans ma propre histoire, l'histoire de ma famille. Et puis, les parcours très différents de ces deux sœurs. L'une qui va vraiment aller vers la famille, les valeurs de base. Et puis l'autre qui va partir en vrille, avoir une vie complètement insensée et se construire professionnellement. Donc deux trajectoires à l'opposé et deux trajectoires dramatiques. C'est merveilleusement maîtrisé et les portraits des hommes dans ce livre sont aussi d'une grande force. Et le père est également en filigrane, puisque c'est l'amour du père qui était un peu plus porté vers l'une que l'autre qui amène finalement le dérèglement et l'impossibilité pour les deux sœurs de se construire. Et puis la mère complètement alcoolique. Qui s'autodétruit. Et ça, c'est une figure assez récurrente de la littérature américaine. Je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont devenus romanciers parce que leur mère était alcoolique. Donc, mesdames, buvez.
Autre grand auteur américain, contemporain, celui-ci, David Vann. Alors, moi, bien sûr, moi, je pense à Second Island parce que c'est le premier roman qu'on a lu de lui. Mais vous avez choisi Goat Mountain, un roman beaucoup plus récent.
Oui.
C'est pourquoi celui-ci ? Et c'est aussi un auteur de la résilience aussi. Hein.
Ouais, c'est fabuleux.
C'est une histoire terrible.
Oh là là, comment il écrit ? Comment il écrit la forêt ? Alors, David est un sauvage. C'est un petit sauvage. Il n'a aucune éducation, ce garçon. La dernière fois que j'ai déjeuné avec lui, il m'a fait le coup de « Oh, Sophie, where is my wallet ?» Donc, c'est moi qui ai payé le repas.
Très chic.
« Oh, pourquoi c'est ça, t'es hotel ?» Et bon, c'est comme un frère insupportable d'égoïsme et de talent. Il est radieux, il est fabuleux et c'est... Et c'est lui qui est dans ses livres, évidemment, au travers de ses romans, oui. Tous ces personnages de jeunes garçons, déjantés, c'est David. Mm. Et moi, j'aime retrouver... il a beau dire le contraire, de toute façon, même Thomas H. Cook vous dira toujours le contraire, mais si, par exemple, vous lisez Julian Wells, la vérité sur
le crime de Julian Wells,
en fait, Thomas H. Cook est dans tous les personnages.
Oui.
En fait, on est des tricheurs, on se découpe en petits morceaux, puis on met un petit morceau de nous dans tel ou tel personnage. Et je pensais que j'étais la seule à le faire, pas du tout. Donc, David et Thomas le font. C'est aussi une façon pour nous, je pense, de faire une sorte d'analyse. En mettant comme ça sur papier, en posant sur papier nos obsessions, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on déteste en nous surtout, tout ce qui nous est insupportable de savoir, de connaître sur nous-mêmes. Et David, c'est vrai qu'il y a une forme de perversion chez lui, de folie. Et ça, c'est vraiment des choses qui me parlent. Et en plus, on est allés en 66 tous les deux, donc on a plein de points communs. Et j'ai une grande admiration pour son écriture, qui est influencée comme la mienne par les lectures de Nature Writing, par Cormac McCarthy, par Joyce Carol Oates et par... Hemingway, qui reste une grande, grande influence pour moi. Mais je dois dire que celui qui m'a le plus influencée, elle est à égalité, ça, on va mettre Maupassant et Stendhal l'un à côté de l'autre, je sais. C'est très étonnant pour un auteur de roman noir, mais Stendhal et Flaubert, donc c'est vraiment les grands, grands auteurs.
Et donc dans les français, justement, vous avez cité un titre que je ne connaissais pas mais que j'ai très envie maintenant de découvrir et de vous en entendre parler. C'est un auteur, Guy Bollin, un premier roman. Alors il a plus d'une soixantaine d'années, ce monsieur, je crois, et un premier roman qui s'appelle Fils du feu, qui vient de faire paraître là pour la rentrée littéraire 2016. Un roman donc pas polar, hein, mais pourquoi ce choix? Vous l'avez découvert aussi très récemment?
Je l'ai découvert par le biais d'une réunion, une rencontre qui avait été organisée par la Société des gens de lettres, qui chaque année met en avant des auteurs dont c'est le premier roman est publié. Et j'étais époustouflée par l'écriture de cet auteur. Il faut savoir que ce livre, ça fait 20 ans qu'il l'écrit. Ça fait 20 ans qu'il l'envoie aux éditeurs. Et enfin, qui l'a repéré ? Martine Boutan de chez Grasset. Donc, ça ne pouvait pas ne pas être un roman génial. C'est d'une grande force. En plus, il écrit aussi sur des choses du terroir, sur sa grand-mère, sur la façon dont elle va enfin, retirer la peau des grenouilles. Il y a toute une histoire sur quand elle prépare des cuisses de grenouilles, par exemple. Il y a beaucoup de férocité, de cruauté. Beaucoup de choses que j'ai retrouvées, moi, par rapport à justement mon enfance, comment les adultes agissent parfois devant les enfants sans nous donner des explications très claires. Et on a l'impression que ce qu'ils font, c'est normal et merveilleux. Et des années plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, ils étaient complètement à côté de la plaque et qu'ils partaient totalement en vrille, ce qui était le cas de parfois mes parents ou mes grands-parents. Mais avec les regards de l'enfance, on trouve que ce sont des gens merveilleux et pour lesquels on garde une grande affection. Et je pense que lui, il a vraiment ce regard-là sur ses parents, sur cette grand-mère. Et c'est surtout la qualité d'écriture, je crois. J'ai rarement entendu une musique aussi belle. Voilà, c'est... Il est question aussi du regard d'un homme sur le corps des hommes, donc sur l'homosexualité. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, le désir amoureux, enfin le désir d'un homme pour un homme. C'est quelque chose que je trouve remarquablement beau et que j'avais exploré dans À la mesure de nos silences, enfin vraiment en filigrane, hein, parce que c'est sous-jacent à l'histoire, au roman historique, mais... ce désir qu'on peut avoir aussi en tant que femme pour une autre femme, qu'on va peut-être pas aller au bout, mais on va le sentir. Je sais qu'à l'adolescence, moi j'étais troublée par le corps de certaines camarades et je trouve que c'est bien de l'assumer, de le reconnaître et en tant qu'auteur de pouvoir s'en servir après. Voilà.
Et puis après, qui se fait cher, quoi. C'est ce qui est votre marque de quand on vous lit, quoi. Ce qui affleure toujours le désir de toute part, quoi. Le désir de se reconstruire, le désir d'avancer. Parce que Lola, c'est quelqu'un qui avance aussi. Lola Lombard, c'est quelqu'un qui avance. Et c'est cette fragilité, cette humanité de ces personnages touche le lecteur, bien au-delà du genre, en effet. Et c'est une très belle rencontre, c'est un très beau voyage sur la route 66, mais au-delà, au plein cœur d'une humanité d'une traversée au-delà des apparences que vous nous conviez. Maintenant, Black Coffee, White Coffee, c'est vraiment de très beaux romans. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur Bloody Coffee, donc, que vous préparez? Qu'est-ce que, après, puisque... White Coffee, c'est plutôt le suspense autour de qui est le tueur, qui est ce serial killer qui sévit sur la route. White Coffee, c'est plutôt qui est Pierre Lombard. Ouais. Voilà, le mystère autour du père, de la paternité, de la filiation. Est-ce que pour Bloody Coffee, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, sur White, il y a à la fois d'un côté, il y a Pierre Lombard qui revient en France et qui va hanter littéralement sa famille. Et à Chautauqua Institution, dans l'État de New York, Desmond, lui, est face à un véritable fantôme qui hante cette petite ville tranquille. Et paisible, où des phénomènes tout à fait incroyables arrivent, des disparitions d'objets usuels, les écureuils aussi disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et puis on va retrouver le cadavre d'une femme sans tête, on va retrouver des choses... donc en fait, une multitude de fausses pistes sur lesquelles je vais vous mettre. Voilà, et je mets Desmond... il a un petit côté Sherlock Holmes, Desmond, dans cette partie-là. Il est isolé. J'aime bien empêcher mes personnages. J'adore empêcher les gens de voler au secours des autres. Sans doute parce que je suis moi-même empêchée parfois d'aider les personnes que je voudrais aider. Et c'est ce bouillonnement intérieur, cette rage intérieure de ne pas pouvoir faire plus pour ceux qu'on aime, d'être retenu, c'est quelque chose de très, très moteur qui peut amener aussi des choses très intéressantes chez un personnage. Pour Lola, il y a une scène dans White Coffee qui est très importante, c'est la scène de la piscine. Où cette femme donc prend sur elle, elle est loin de l'homme qu'elle aime, elle sait que elle vient de vivre un truc quand même terrible, c'est qu'elle a quand même été en face d'un tueur en série et elle est
oui, on craint pour sa vie.
Elle est très très très
vulnérable.
Très vulnérable, hein. C'est un moment d'une grande tension dans Black Coffee. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines. Donc elle a encore des stigmates, des cicatrices, et intérieures et extérieures. Et quand elle va dans l'eau, là, c'est autre chose. C'est enfin, il y a un moment de bonheur dans son corps, elle oublie tout. et les enfants et le mari et que Desmond n'est pas avec elle et soudain il est avec elle dans l'eau. Et c'est une scène d'amour. C'est un moment vraiment très sensuel dans le livre. Et quand deux personnages comme ça sont séparés de chaque côté de l'Atlantique, il faut quand même trouver des moments de lien érotique. Et donc il y a cette scène et puis il y a la conversation téléphonique qui sont les deux petites scènes un peu érotique du livre.
Oui, l'enjeu, c'est les retrouvailles, en effet, entre Desmond et Lola. Est-ce qu'ils vont arriver à se...
C'est deux personnages très sensuels. Mmh. Donc, dans Bloody Coffee, il sera beaucoup question... Enfin, beaucoup. En tout cas, il sera question de ça, de sensualité. C'est-à-dire que le sang, c'est le sang qui va bouillir dans leurs veines, de leurs désirs, de ce qu'ils ont à se donner. Et c'est l'expression aussi... Enfin, j'ai aussi envie d'aborder le désir qu'on peut avoir pour le corps d'un homme ou d'une femme qui n'ont pas 20 ou 30 ans, qui ne sont pas des de magnifiques, beaux jeunes hommes et jeunes femmes, mais parler de ce qu'on peut aimer dans le corps d'un homme ou d'une femme de 50, 60 ans. Et on est beau, on est sensuel, on est désirable. J'ai envie de parler de ça dans Bloody Coffee. Et aussi de parler de filiation, puisqu'effectivement... un jeune homme va prendre en otage Lola parce que en fait il veut régler son compte à Desmond et on va savoir pourquoi.
Voilà. on n'en dit pas trop quoi, pour ne pas effleurer le suspense qui viendra, donc on imagine en 2017.
Et Pierre, donc ça c'est ce qui va se passer du côté de Lola et Desmond, et du côté de Pierre qu'on va retrouver, il est avec son fils en France. Et il va y avoir une mort tout à fait banale dans sa famille. Mais en fait, elle est loin d'être banale. Et derrière cette mort, va se révéler des secrets de famille qui vont expliquer pourquoi Pierre est comme ça. Voilà.
Merci d'avoir partagé avec nous ce moment avec White Coffee,
merci
Black
Véronique.
Coffee et bientôt Bloody Coffee, donc en 2017, j'imagine. À bientôt.
Merci.